Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse des divines consolations, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous allons, je pense, aujourd'hui terminer l'évangile selon saint Marc. Nous avons les derniers versets du chapitre 15 de saint Marc à expliquer, puis nous passerons au dernier chapitre de l'évangile, au chapitre 16. Sur le fichier qui contient les chapitres 11 à 16 de saint Marc, nous en sommes à la page 34, en bas de la page. Avec une citation, commençons avec une citation de saint Bède le Vénérable, nous pouvons aussi, dans un sens spirituel, conclure de cet exemple que le corps du Seigneur ne doit pas être enveloppé dans l'or, dans les pierres précieuses et dans la soie, mais dans un linge d'une blancheur éclatante. Ceci à propos du linceul. Donc Joseph d'Arimathie a acheté un linceul. Il descendit Jésus de la croix, il l'enveloppa dans le linceul. Donc c'est de là, il faut remarquer les pères, qu'est venu dans l'église catholique l'usage d'offrir le sacrifice de l'autel, non sur la soie ou sur une étoffe de couleur, mais sur un tissu de lin qui vient de la terre en souvenir du corps du Seigneur qui a été enseveli dans un linceul blanc, comme l'a ordonné par un décret pontifical le bienheureux pape Sylvestre. Donc l'église catholique célèbre la messe sur trois nappes, et les trois nappes doivent être faites de lin. De lin blanc et cru. C'est également de lin que doivent être composés tous les linges qui touchent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout le purificatoire, le corporal. Ces linges sacrés, donc on utilise pendant la messe, la pâle aussi, doivent être faites avec du lin par respect pour la coutume, pour la tradition qui vient justement du fait que notre Seigneur Jésus-Christ a dans son corps été déposé dans ce sépulcre, dans une pièce de lin. Joseph, qui enveloppe le corps de Jésus dans un linceul blanc, est aussi la figure de celui qui le reçoit dans un cœur pur, et il le met dans un sépulcre. La couleur blanche du linceul représente aussi la pureté de corps, la pureté d'intention. Saint Jérôme nous dit que c'est par la sépulture du Christ que nous ressuscitons et c'est par sa descente aux enfers que nous montons aux cieux. C'est là que nous trouvons véritablement le miel dans la gueule du lion mort. Donc là, il fait allusion à un passage, si mes souvenirs sont exacts, c'est dans la vie du roi David. Imitons-nous aussi la conduite de Joseph en recevant le corps de Jésus-Christ dans le sacrement de l'unité, déposons-le dans un monument taillé dans le roc, c'est-à-dire dans une âme qui ne perd jamais le souvenir de Dieu. Une telle âme est comme taillée dans le roc, c'est-à-dire dans Jésus-Christ, qui est la pierre, parce qu'il est le principe de toute fermeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de même que notre Seigneur Jésus-Christ a été déposé dans un sépulcre neuf, taillé dans le roc, et lui-même, le corps de Jésus déposé dans un linceul, et bien, de la même façon, notre âme doit être taillée dans le roc, donc dans la solidité du roc et enveloppée d'un linceul blanc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, symbole de ce sépulcre, si notre âme n'est pas parfaitement pure. Donc, faire attention de toujours recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans son corps, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, dans un sépulcre blanc, donc une âme parfaitement purifiée par le sacrement de pénitence. Nous devons aussi envelopper ce divin corps, donc le corps de notre Seigneur que nous recevons dans la Sainte Eucharistie, dans un linceul blanc, c'est-à-dire le recevoir dans un corps pur, dans une âme pure surtout, car le linceul est l'emblème du corps qui est le vêtement de l'âme, et l'honneur dû au corps de Jésus-Christ exige que nous le recevions non seulement dans une âme innocente, mais dans un corps exempt de toute souillure. Voilà pourquoi l'Église demande, avant de recevoir la Sainte Eucharistie, non seulement d'avoir une préparation d'ordre spirituel, avec une âme bien entendu en état de grâce, sous peine de commettre un terrible, épouvantable sacrilège, mais l'Église aussi demande une participation du corps à la Sainte Communion. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. 3 heures avant la communion, pour les fidèles. Donc 3 heures sans manger. Pour le prêtre, c'est 3 heures avant le début de la messe pour la nourriture solide et pour également l'alcool. Et quant aux boissons, autres que l'eau, il faut attendre 1 heure. 1 heure avant le début de la messe. Pour les fidèles, une heure avant la communion pour les fidèles, 1 heure avant le début de la messe pour le prêtre lui-même, l'eau ne rompant pas le jeûne. J'ai déjà expliqué qu'il peut y avoir des dispenses qui sont accordées, surtout pour ceux qui doivent prendre des médicaments juste avant la messe. Il faut de plus, c'est à la page 35, envelopper le corps et ne pas le laisser à découvert. C'est un secret qu'il faut tenir soigneusement fermé, caché, dire. Pas simplement avoir notre âme en état de grâce dans un corps préparer à recevoir le Dieu par le jeûne eucharistique, mais également veiller à ce que, après avoir reçu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion, nous ne laissions pas notre âme être contaminée par l'esprit du monde. Donc tout de suite refermer, une fois que notre Seigneur est rentré dans notre âme, refermer soigneusement la porte pour que cette âme ne puisse pas être contaminée de l'extérieur par le démon qui va tout faire évidemment pour nous empêcher de jouir de cette présence eucharistique dans notre âme. Donc tous ces détails de la sépulture du Sauveur peuvent aussi s'appliquer au peuple juif qui doit embrasser la foi à la fin du monde. Donc ce sépulcre taillé dans le roc, qui va recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, représente aussi l'âme de tous ceux qui vont se convertir, y compris un reste du peuple juif qui va se convertir à la fin des temps. Donc ennobli par la foi, le peuple juif, en haut de la page 35 sur le polycopier, le peuple juif redevient fils d'Abraham, recouvre l'espérance, et il attend le royaume de Dieu. Donc il entre dans l'assemblée des chrétiens pour recevoir le baptême, ce qui est figuré par le nom de Pilate, qui signifie forgeron, qui dompte les peuples les plus durs et les gouverne avec un sceptre de fer. Donc, le peuple juif appartient à une religion qui n'est plus la religion du Christ pour le Nouveau Testament, mais si ce fils d'Abraham recouvre l'espérance et la foi catholique, trouve la foi catholique, à ce moment-là, il va atteindre le royaume de Dieu parce qu'il va devenir membre de ce corps mystique du Christ. Il ne s'agit pas simplement d'être membre du corps mystique du Christ, par le baptême, ça ne suffit pas. Il faut en plus de ce baptême avoir l'état de grâce. Alors, il n'y a pas de problème pour les enfants juste après le baptême, qui eux ne peuvent pas perdre cet état de grâce. Mais pour un adulte, il importe, en plus du baptême, avoir l'état de grâce. N'oubliez pas que sont sauvés que ceux qui appartiennent à l'âme de l'Église. Et l'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui vivent en état de grâce. Le corps de l'Église étant la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Ça ne suffit pas. Il faut en plus avoir cet état de grâce pour être vraiment membre de l'âme du Christ. Donc, ennobli par la foi, le peuple juif également demande le sacrifice qui est donné comme viatique aux pénitents à la fin de leur vie. Et il s'enveloppe dans un cœur pur, mort au péché. Et il va déposer dans un lieu fortifié par la foi et recouvrir. Il veut le recouvrir avec l'espérance par les œuvres de charité, car la fin du précepte est la charité. Donc, à partir du moment où même quelqu'un qui n'est pas catholique se convertit à la foi catholique, je dirais le bon Dieu pardonne toutes les erreurs passées, même les erreurs graves sur la foi, et cette personne est reçue à part entière dans l'Église catholique. Donc faites attention parce qu'on trouve parfois des fidèles qui sont un peu qui vont être plus royalistes que le roi, et au lieu de se réjouir lorsqu'on voit par exemple un nouveau fidèle qui arrive dans nos chapelles, au lieu de se réjouir, eh bien s'inquiète et pratiquement disent à ce nouveau fidèle ou à propos de ce nouveau fidèle ou on peut pas vraiment avoir confiance en cette personne parce qu'il vient de l'Église moderne ou il vient de rien du tout. Et donc, il faut s'en méfier. C'est peut-être un espion envoyé par l'Église de Vatican II pour espionner ce qu'on fait. Et j'ai vu à plusieurs reprises, c'était très douloureux pour moi de voir des nouveaux paroissiens qui sont partis littéralement en courant parce qu'ils n'ont pas été acceptés avec charité dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut que l'Église catholique accepte les convertis à partir du moment, bien sûr, où ils sont véritablement convertis. C'est absolument évident. Alors, nous passons maintenant au dernier chapitre. Dernier chapitre de l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 16. Donc, sur le polycopier, au verset, à la page 36, chapitre 16. Commençons par les versets 1 à 8 de ce dernier chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Donc, c'est l'Évangile de la résurrection. Versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour venir embaumer Jésus. Et de grand matin, le premier jour après le sabbat, elles vinrent au sépulcre, le soleil étant déjà levé. Et elles se disaient entre elles, qui ne retira la pierre de devant l'entrée du sépulcre? Et en regardant, elles virent que cette pierre, qui était fort grande, avait été roulée de côté. Et entrant dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Et il leur dit, ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ils sortirent alors du sépulcre et s'enfuirent, car le tremblement et la peur les avaient saisis et ne dit rien à personne à cause de leur crainte. Ça, c'est la vision de l'ange envoyé par Dieu pour accueillir les saintes femmes qui viennent au tombeau pour achever la préparation du corps selon les rites juifs, ce qui est une preuve que Marie-Madeleine, Marie-Cléophas, Marie-Salomé avait perdu la foi. Pourtant, notre Seigneur avait dit plusieurs fois que le troisième jour, il ressusciterait d'entre les morts, mais elles l'ont oublié. Elles viennent pour achever les préparations mortuaires, les rites funéraires habituels chez les juifs, ce qui prouve qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. On voit très bien que notre Sainte Vierge Marie n'est pas venue au tombeau pour finir les rites funéraires, parce qu'elle savait très bien que ça ne servait absolument rien, puisque son fils allait ressusciter d'entre les morts. Alors on voit ici comment Dieu accueille avec bonté ceux qui cherchent Dieu. Sainte Marie-Madeleine cherche Dieu. Certes, elle a perdu la foi, mais elle a aussi ce grand amour du bon Dieu, et donc Dieu va lui pardonner ce manque de foi, va lui donner la foi. Par contre, ceux qui ne cherchent pas Dieu ne sont pas accueillis de cette façon par un ange. Les soldats qui avaient été placés devant le tombeau pour garder le corps, envoyés par le Sanhédrin juif, eh bien, ne vont pas avoir la visite de l'ange. Enfin, ils vont voir l'ange qui va venir rouler la pierre du tombeau, mais ils vont tomber la face contre terre, complètement paralysés par la peur, parce que cet ange n'est pas pour eux un signe de paix, mais un signe de terreur. Alors qu'au contraire, quand on cherche Dieu, l'ange qui nous apparaît devient un signe de paix. Voyons ce que dit saint Grégoire sur ces premiers versets. « Pour nous qui croyons en celui qui est mort, nous venons à son tombeau avec des parfums. Si nous le cherchons tout parfumé de la bonne odeur des vertus avec la conscience de nos bonnes œuvres. » Donc, elles arrivent avec des parfums pour embaumer notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces parfums représentent donc la bonne odeur qui doit être celle du chrétien en état de grâce. Quand on est en état de grâce, on a une bonne odeur spirituelle parce que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ en nous, qui étant la vie même, va rendre toute notre vie odoriférante pour Dieu. Donc, c'est de grand matin, dit le verset 2, de grand matin, le premier jour après le sabbat, les femmes vinrent au sépulcre, le soleil étant déjà levé. Semblable au soleil, disent les pères qui avant sont levés, se fait précéder par l'aurore en pourpré, il prépare les yeux à contempler la splendeur éclatante de sa résurrection. Alors, à l'exemple des saintes femmes, l'Église tout entière chante les louanges de Jésus-Christ qui, par le fait de sa résurrection, rend au genre humain le mouvement à la vie en l'inondant de la lumière de la foi. Donc cette lumière annonce la résurrection. C'est-à-dire que de même que la couleur rouge du ciel annonce la levée du soleil, de la même façon, si vous voulez, cette, notre Seigneur Jésus-Christ va venir annoncer sa résurrection par l'intermédiaire d'un ange. Autre commentaire de Saint Bède le Vénérable. En se rendant de grand matin au tombeau, ces pieuses femmes nous donnent une preuve de leur ardent amour. Elles nous apprennent ainsi, dans le sens spirituel, à offrir à Dieu le parfum de nos bonnes œuvres et la suave odeur de nos prières, la face éclairée de sa lumière, et après avoir chassé les ténèbres des vices. Encore une fois, l'embaumement de notre Seigneur Jésus-Christ par les saintes femmes représente les bonnes œuvres, la suave odeur de nos prières, donc qui sont un acte d'honneur à l'égard du corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en nous. De même que le sépulcre va être embaumé par les aromates apportés par les saintes femmes, de la même façon, notre âme va être embaumée par les bonnes œuvres que nous faisons dans l'esprit de charité et par l'odeur de nos prières. Alors, la pierre qui est enlevée, qui nous retira la pierre devant l'entrée du sépulcre au verset 3, la pierre enlevée signifie, au sens allégorique, que les mystères du Christ, couverts comme d'un voile par la lettre de la loi écrite sur la pierre, étaient maintenant pleinement dévoilés, car cette pierre était fort grande. C'est-à-dire, on ne pouvait pas tout comprendre. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ reste un mystère pour les Juifs, parce que justement, ils n'ont pas encore vraiment une foi très forte. Et la pierre qui est ôtée, la pierre très grande avait été roulée de côté par l'ange, eh bien, représente justement l'intelligence qui s'ouvre à ces mystères. Les Juifs, avant la résurrection, n'étaient pas capables de comprendre ce qui s'était passé. Et là, au contraire, les Juifs convertis vont pouvoir comprendre la réalité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, autre symbole de la résurrection, donc la résurrection, si vous voulez, l'ensevelissement et la résurrection représentent quelque chose pour nous. Les saintes femmes entrent dans le tombeau, nous disent les pères, pour s'ensevelir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. C'est-à-dire, on s'ensevelit avec notre Seigneur Jésus-Christ en détruisant le péché en nous pour ressusciter avec lui dans la joie de la résurrection pascale. Donc le jeune homme, c'est l'ange, figure de l'âge de l'homme ressuscité qui ne connaît point la vieillesse, parce qu'il n'est plus dans le temps, il est dans l'éternité. Les anges sont au ciel. Et donc dans l'éternité, il n'y a plus de temps, on est hors du temps. Car là où l'homme ne doit plus naître ni mourir, l'âge de l'homme n'est plus soumis ni à la croissance, ni à la décroissance. Voilà pourquoi ce n'est ni un vieillard, ni un enfant, mais un jeune homme dans la fleur de l'âge qui se présente au regard des saintes femmes. Ceci fait allusion à une tradition qui n'est pas de foi, mais qui est enseignée par beaucoup de pères, que à la résurrection, nous allons ressusciter à l'âge du Christ, à sa mort. L'âge parfait est représenté par l'âge du Christ au moment de sa mort, 33 ans. Donc nous allons ressusciter des morts à la fin des temps, à l'âge de... avec un corps qui sera le corps d'un... si vous voulez, d'une physiquement parfait, sans aucune maladie bien entendu, mais on ressuscitera d'après les pères avec un corps qui correspondra à l'âge de 33 ans, l'âge parfait. Et donc c'est représenté par ce vieillard, par ce jeune homme justement qui n'est ni un vieillard, il n'y a qu'un corps décrépit par l'âge, ni un enfant avec un corps qui n'est pas encore formé, mais un corps parfaitement formé dans la fleur de l'âge, donc dans toute la beauté du corps en parfait état de conservation. L'homme ayant un corps parfait, physiquement parlant, au moment où il est en pleine possession de ses moyens, avant de devenir trop âgé, donc de perdre une partie de sa beauté, une partie de ses capacités physiques, après avoir passé l'âge de l'enfance, ou au contraire, là, il n'a pas encore le développement complet de son corps, il n'aura le développement complet de son corps qu'à l'âge de 33 ans, et c'est pour cela que la résurrection a lieu pour les corps à l'âge de 33 ans, c'est-à-dire que nous aurons l'apparence d'un corps de 33 ans, disent des pères. Alors ici, il y a d'autres commentaires, et parfois certains commentaires qui ne sont pas forcément évidents. Elvire, un jeune homme assis à la droite, dans la page 36, à la page 36 en bas de la page, les saintes femmes virent un jeune homme assis à la droite, la partie méridionale de l'endroit où le corps avait été déposé. En effet, ce corps étendu sur le dos dans le sépulcre ayant la tête à l'occident devait avoir nécessairement la droite au midi. Donc c'est le symbole encore de la résurrection. La droite étant le côté noble du corps. La gauche, au contraire, selon saint Grégoire, donc au verset 5, il est dit que le jeune homme était assis du côté droit du tombeau. La gauche, dit saint Grégoire, est l'emblème de la vie présente. Donc la droite est le symbole de la vie éternelle. Et donc comme l'ange vient du ciel, il vient hors du temps. Au ciel, c'est hors du temps, on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité. Donc il est à droite et pas à gauche. La gauche est un symbole de la vie ici-bas, le symbole de la vie ici-bas. La droite, le symbole de la vie éternelle au ciel. Or, comme notre Rédempteur avait traversé cette vie corruptible, c'est avec raison que l'ange qui venait annoncer son entrée dans la vie éternelle se tenait à droite. Encore une fois, la droite est le symbole de la noblesse. Ou bien encore, autre interprétation, il apparut revêtu d'une robe blanche, parce qu'il annonce les joies de cette grande fête. Car la blancheur des vêtements est le symbole de cette grande et éclatante solennité. Donc encore une fois, la robe blanche de l'ange représente la pureté qui doit être celle de l'élu au ciel. Au ciel, nous serons comme des anges. Bon, avec une différence quand même essentielle, c'est que l'ange est un pur esprit qui n'a pas besoin de corps pour avoir une perfection dans sa nature. L'homme, au contraire, au ciel, actuellement, les élus du ciel n'ont pas encore leur corps avec eux, puisque les corps sont encore en train de pourrir sur la terre. Mais à la fin des temps, lorsqu'il y aura la résurrection générale, le corps de chaque homme dont l'âme est au ciel va venir participer à la gloire du corps, à la gloire, pardon, de l'âme, parce que l'âme des élus au ciel ne peut pas avoir de joie complète sans avoir la participation du corps, puisque l'homme, la nature humaine, est une nature faite d'un corps et d'une âme. Donc pour avoir une gloire totale au ciel, il faut avoir et la glorification de l'âme et la glorification du corps, ce qui n'est pas le cas pour l'ange, puisque l'ange, pour avoir une perfection de sa nature, n'a pas besoin de corps, puisqu'il n'a pas de corps, contrairement à l'homme. Encore une fois, on voit le même symbole, la vertu de la couleur blanche est le symbole à la fois de la pureté et à la fois de la joie. Comme le noir est symbole de la... Dans l'Église catholique, est symbole de la mort, de même le blanc est au contraire symbole de la joie et de la pureté qui sera nôtre au ciel. Passons à la page 37. La robe blanche, donc encore un commentaire de saint Jérôme cette fois-ci, la robe blanche figure encore la joie véritable, on retrouve la même chose, joie et paix. La joie véritable que répand dans les âmes la défaite de notre ennemi, la conquête du royaume, la jouissance du roi pacifique que nous avons trouvé après tant de recherches et que nous possédons sans crainte de le perdre. On retrouve le blanc, symbole justement de cette joie et de cette paix, symbole aussi de la lumière, parce que la couleur blanche va refléter la lumière. Elle va refléter la lumière, alors qu'au contraire, le noir attire la lumière. Mais le blanc va refléter la lumière, c'est le symbole aussi du paradis. Donc on trouve dans le paradis la joie, la paix et la lumière. Ce jeune homme, donc cet ange, donne donc à ceux qui craignent la mort un symbole de la forme que nous réserve la résurrection. Les femmes sont saisies de frayeur parce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, le cœur de l'homme n'a point compris ce que Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Donc il y a une espèce de crainte, et la crainte va se changer en joie. Alors qu'au contraire, pour l'homme qui meurt en état de péché mortel, il y a une espèce de paix en mourant, en pensant que c'est fini, c'est terminé, tout se termine avec la mort au tombeau, et cette joie va se transformer en terreur. Au moment où il va réaliser d'un seul coup, il va ouvrir les yeux d'un seul coup, se rendre compte qu'il arrive devant Dieu, qu'il a méprisé, et qu'il va s'approcher de Dieu avec les mains complètement vides. Donc cette joie humaine va se transformer en terreur. Alors qu'au contraire, l'âme qui passe devant... qui finit sa vie terrestre dans la crainte de la mort, dans la crainte du péché qui s'est confessé, va pouvoir passer devant Dieu, au contraire dans la joie, parce que son âme est prête à être jugée devant Dieu, par Dieu. Alors, Alors Jésus en latin veut dire salutaire ou sauveur. L'ange dévoile donc les mystères de l'immortalité à de simples mortels pour nous inspirer de justes sentiments d'action de grâce et nous faire comprendre ce que nous avons été, ce que nous serons un jour. Donc nous passerons de l'obscurité à la lumière, de la peur à la paix, de la crainte à la paix éternelle au ciel, de la tristesse à la joie. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ va dire, plus exactement l'ange, va dire aux femmes, allez dire à ses disciples, à Pierre qui vous précède en Galilée. Donc l'ange va charger les saintes femmes, nous disent les pères, d'apprendre cette nouvelle aux apôtres. Donc la mort a été annoncée par la femme, c'est par la femme que doit être annoncée la vie qui ressuscita d'entre les bras de la mort. Donc, la première femme qui va annoncer la mort, c'est Ève. Ève qui amène la mort sur le monde par sa désobéissance. Et donc, puisque le péché est arrivé par une femme, la résurrection va être annoncée aussi par une femme. Et c'est donc les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine, Marie-Cléophas, Marie-Salomé, qui vont venir annoncer, qui doivent venir annoncer aux apôtres la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange, disent les pères, désigne spécialement Saint-Pierre, parce qu'il s'est jugé indigne de l'apostolat lorsqu'il a renié par trois fois son maître. Mais les péchés passés ne sont point pour nous un obstacle lorsqu'ils cessent de nous être agréables. Okay. Et c'est pour cela, nous disent les pères, ça c'est important de comprendre, que l'ange va citer le nom de Pierre. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'explique Saint Grégoire au paragraphe suivant dans les explications des pères. Si l'ange n'avait pas désigné nommément celui qui avait renié son divin maître, Saint-Pierre, il n'aurait pas osé reprendre sa place parmi ses disciples. Il l'appelle donc par son nom pour l'arracher au désespoir, aurait pu jeter son renoncement. Donc, en citant le nom de Saint-Pierre, celui qui a autorité, parce que Saint-Pierre va devenir le futur pape, et il a déjà une autorité morale sur les apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ, par cette phrase de l'ange qui dit aux saintes femmes, allez dire à Pierre, ici Pierre, pour bien montrer que Pierre a été pardonné. Si Pierre n'avait pas été pardonné, son nom n'aurait même pas été prononcé par l'ange. Pierre a été pardonné, son péché a été pardonné, il est sorti pour pleurer amèrement le triple reniement qu'il a fait dans la cour de prétoire de Pilate, et donc il est pardonné, c'est pour cela que son nom est cité. Les péchés passés, donc, disent les pères, j'aime bien cette phrase, les péchés passés ne sont point pour nous un obstacle lorsqu'ils cessent de nous être agréables. C'est-à-dire que tant que nous aimons le péché, Dieu ne peut pas nous aimer. Mais si nous cessons d'aimer le péché, à ce moment-là, on ouvre la porte de notre âme et Dieu peut nous aimer. Le péché et l'amour de Dieu sont deux choses incompatibles. Soit nous aimons le péché, soit nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aimer les deux à la fois, ce n'est pas possible. Nul ne peut servir de maître à la fois. Donc il faut faire attention, avant de prétendre être aimé par Dieu, d'avoir purifié notre âme par le sacrement de pénitence. Allez, annoncer à Pierre donc que notre Seigneur va les précéder, lui et les disciples, les apôtres, en Galilée. Le mot Galilée, disent les pères, signifie la transmigration. Déjà, notre Rédempteur était passé des souffrances de sa passion à la gloire de sa résurrection, de la mort à la vie. Et nous aussi, nous jouirons un jour du spectacle de sa résurrection si nous sortons ici de la fange des vices pour nous élever au sommet de la vertu. Donc, allez en Galilée, c'est-à-dire maintenant que vous êtes purifiés du péché, maintenant que vous avez retrouvé la foi que vous aviez perdue, vous pouvez à ce moment-là vous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, donc passer de la mort à la vie. Lorsque nous sommes encombrés par le péché, nous sommes dans la mort spirituelle. Lorsqu'au contraire, nous sommes confessés, nous pouvons participer à ce moment-là à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la mort spirituelle n'est plus dans notre âme. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ peut à ce moment-là envahir notre âme avec sa paix, sa joie, parce que nous sommes sortis de la fange des vices, et pour nous élever au sommet de la vertu. C'est pour ça qu'on monte vers le ciel, on monte vers les sommets de la vertu représentés par le paradis. Donc celui qu'on disait être dans les sépulcres nous apparaît passant de la mort à la vie. Donc c'est ce que dit l'ange. Il est ressuscité, il n'est point ici. Ainsi, celui qui se fait remarquer par la mortification de la chair donne aux autres le spectacle de l'heureuse transmigration de son âme. Donc ces paroles signifient que la grâce de Jésus-Christ devait quitter le peuple d'Israël pour passer ou pour émigrer chez les gentils, qui n'eût jamais reçu la prédication des apôtres si Dieu lui-même ne leur avait préparé la voie dans le cœur des hommes. Et c'est là le sens de ces paroles, je vous précéderai en Galilée, c'est là que vous le verrez, c'est-à-dire là vous trouverez ses membres. Donc notre Seigneur Jésus-Christ déjà commence à envoyer ses apôtres à la prédication, à la face du monde, pour qu'ils prêchent pas simplement en Israël, en Palestine, je veux dire, mais dans le monde entier. Donc ces paroles représentent le passage qui annonce la prédication au monde entier. Rappelez-vous notre Seigneur Jésus-Christ, qui au début n'était envoyé qu'aux brebis d'Israël, donc aux gens de Palestine, c'est tout. Et avec saint Paul, avec l'évangélisation de saint Paul et des apôtres, après la fête de la Pentecôte, donc ils vont partir dans le monde entier. Et on voit très bien, on l'a vu au cours de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé prêcher en dehors de la Palestine, il est resté en Palestine. Voyons les versets 9 à 13 du chapitre 16 de saint Marc. Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour après le sabbat, apparut d'abord à sainte Marie-Madeleine, dont il avait chassé les sept démons. Elle alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Mais eux, entendant dire qu'il vivait, qu'elle l'avait vu, ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et qui allaient à la campagne. Et ceux-ci vinrent l'annoncer aux autres, mais ils ne les crurent pas non plus. Ces deux d'entre eux sont les pèlerins d'Emmaüs. Vraisemblablement, il y avait Saint-Luc parmi eux. Donc, les disciples d'Emmaüs voient notre Seigneur Jésus-Christ, on verra ça dans d'autres évangiles. Les disciples d'Emmaüs vont voir notre Seigneur Jésus-Christ, on va venir, venir annoncer. La tradition dit que c'est, je crois, Luc et Nicodème, donc vont venir annoncer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les apôtres, qui n'ont pas encore reçu la grâce de la foi complète, ne croient pas à cette résurrection. C'est ça qui est terrible. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser les saintes femmes, la foi toute neuve retrouvée de sainte Marie-Madeleine, pour éclairer les apôtres, mais qui ne croient toujours pas. Regardez saint Thomas, par exemple, qui, malgré la visite aux apôtres, lui n'était pas avec les apôtres le jour de la visite de notre Seigneur Jésus-Christ après la résurrection, et donc il ne croira pas jusqu'au bout. Il va de même dire, si je ne mets pas mon doigt dans les plaies des mains du côté et des pieds, je ne croirai pas. Donc ceci montre à quel point nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour... Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ justement pour augmenter en nous la foi. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'avoir la foi. Donc les pères expliquent ainsi comme Samson, qui au milieu de la nuit, non seulement sortit de la ville de Gaza, mais en emporta les portes sur ses épaules, notre Rédempteur ressuscite avant le jour, et non seulement il sort libre du sein de la terre, mais il brise et renverse les portes de l'enfer. Donc ici, saint Marc rappelle que Jésus a chassé sept démons de sainte Marie-Madeleine. Et donc, par la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ brise le pouvoir du démon sur notre âme. De même que, il fait allusion à un passage de l'Ancien Testament où un des juges, Samson, sort avec les portes de la ville de Gaza, et bien ça annonce justement que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection, va libérer l'âme va libérer l'âme du pouvoir du démon, et le démon va être renfermé. Le démon va être renfermé en enfer, avec les portes de l'enfer fermées sur lui, et par contre ces mêmes portes qui permettait aux démons d'être rentrés dans notre âme, les portes de notre âme, elles, vont être grandes ouvertes à la grâce sanctifiante. Donc les portes ferment l'enfer et s'ouvrent au contraire à l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'âme qui a retrouvé la foi de la résurrection. Alors les pères se demandent qu'est-ce que représentent ces sept démons. On parle ici des sept démons qui étaient dans le cœur de Sainte Marie-Madeleine avant sa conversion. Le chiffre 7 représente l'universalité, c'est pour ça qu'on parle des sept dons du Saint-Esprit, par exemple. Les sept grandes vertus, les quatre vertus cardinales et les trois vertus théologales. Donc les sept démons représentaient l'universalité des vices, les sept péchés capitaux, par exemple. De même que toute l'étendue du temps semble être comprise dans un espace de 7 jours, le nombre 7 est pris pour symbole de l'universalité des choses. Marie-Madeleine avait donc 7 démons parce que son âme était pleine de tous les vices. Lorsque nous sommes en état de péché mortel, nous avons les 7 démons en nous. Donc on ne peut pas avoir un demi-état de grâce. On ne peut pas être en état de grâce à 90%, on l'est ou on ne l'est pas. On peut avoir différents degrés de charité dans cet état de grâce. Mais qu'on ait 5 degrés de charité ou 100 degrés de charité dans notre âme, on est en état de grâce. Par contre, si j'ai le péché mortel en moi, que j'ai un péché mortel ou 150 péchés mortels dans mon âme, dans les deux cas, je n'ai pas l'état de grâce. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas aimer une âme qui vit dans le péché. Il peut aider, préparer une âme qui vit dans le péché à sortir de ce péché, mais tant que l'âme reste volontairement dans le péché, parce que l'amour du bon Dieu, la charité du bon Dieu ne va pas détruire notre libre arbitre. Donc Dieu aime toutes les âmes, il aime les âmes qui vivent dans le péché mortel, dans le sens qu'il souhaite que cette âme pour laquelle il est mort, ces âmes pour lesquelles il est mort sur la croix, puissent sortir du péché, mais tant que l'âme reste dans le péché, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas rentrer dans cette âme. Donc il faut d'abord attendre, d'abord que l'âme ait récupéré l'état de grâce par le sacrement de pénitence. À ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ peut vraiment rentrer dans cette âme et avec lui, venir avec lui et apporter avec lui les 7 dons du Saint-Esprit qui sont représentés par ces 7 vertus. Donc les 7 démons montrent le pouvoir du démon sur notre âme, alors que les 7 dons du Saint-Esprit manifestent le pouvoir de Dieu sur l'âme de la personne qui s'est convertie. Donc les esprits privés, je reprends cette dernière phrase en bas de la page 37, ces 7 démons sont les esprits opposés aux 7 vertus, c'est-à-dire les esprits privés de la crainte de Dieu, de la sagesse, de l'intelligence et des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit qui sont la couronne de la charité. N'oubliez pas que si j'ai commis un péché mortel, même si j'avais les dons du Saint-Esprit en moi avant le péché mortel, j'ai tout perdu. Je perds la charité. Et donc, ayant perdu la charité, je perds les dons du Saint-Esprit. Alors qu'au contraire, si j'ai la charité en moi, j'ai les 7 dons du Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir simplement 1 ou 2 dons du Saint-Esprit. On les a ou on ne les a pas. Si j'en ai un, je les ai tous. S'il m'en manque un, il me manque tous les dons du Saint-Esprit. Passons à la page 38 sur le polycopier. Autre commentaire des pères, Saint Jérôme ici. Le Sauveur apparaît tout d'abord à celle dont il avait chassé 7 démons, confirmant ainsi cette vérité que les femmes de mauvaise vie, les publicains, précéderont la synagogue dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, pourquoi on parle ici des femmes de mauvaise vie? Parce que c'était le type de vie qu'avait Sainte Marie-Madeleine avant sa conversion. C'était une pécheresse publique, tout le monde le savait. Et donc, elles précéderont la synagogue dans le royaume des cieux, parce que ça veut dire que les convertis, donc les païens qui se convertissent à la foi catholique, seront convertis avant la conversion finale de la synagogue ou d'une partie de la synagogue à la fin des temps. De la même façon que le larron va se convertir avant les apôtres. Que le larron, qui était juif, mais on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où venait exactement le larron, mais le bon larron, mais le larron représente le peuple des gentils. Et il va se convertir avant les apôtres. Les apôtres représentent le peuple juif, puisqu'ils sont tous juifs, et les apôtres vont se convertir, vont retrouver la foi qu'après le larron. Le larron va d'abord trouver la foi avant Saint-Pierre et les apôtres. Donc après avoir été le canal par lequel le péché est arrivé jusqu'à l'homme, c'est le cas d'Ève. D'Ève a été le canal par lequel le péché est arrivé jusqu'à l'homme. C'est par la nouvelle Ève que la grâce est transmise. Cette nouvelle Ève, cette nouvelle femme qui amène la résurrection au monde, cette nouvelle Ève, c'est Sainte Marie-Madeleine. Donc elle s'en alla le dire à ceux qui étaient avec lui et qui étaient dans l'affliction. Donc, les pères font remarquer que Marie-Madeleine ne représente, qui annonce cette nouvelle de la résurrection fidèle aux apôtres, ne représente pas simplement la femme, mais l'Église. L'Église catholique, comme femme, elle a gardé le silence. Mais maintenant qu'elle représente l'Église, elle parle hautement et publie le miracle de sa résurrection, de la résurrection. Donc la Sainte Marie-Madeleine représente le corps mystique du Christ tout entier. C'est pour cela que Sainte Marie-Madeleine a une importance fondamentale dans l'Église catholique. Je vous ai déjà souvent dit, je crois que certainement, en dehors de la Très Sainte Vierge Marie, qui a toujours eu une place tout à fait spéciale dans l'iconographie chrétienne, mais les deux saints qui étaient les plus vénérés au Moyen-Âge, après la Très Sainte Vierge Marie, c'était Sainte Marie-Madeleine, justement, Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que ils se retrouvaient tout à fait dans Sainte Marie-Madeleine. Une pécheresse convertie, ça c'était notre histoire à nous tous. Donc, lorsque l'Évangile parle des deux disciples d'Emmaüs, donc c'est au verset 11. Donc Saint Marc parle des deux disciples. Il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin, qui allaient à la campagne, les disciples d'Emmaüs. Donc ces deux disciples d'Emmaüs représentent, nous disent les pères, la vie active et la vie contemplative. Voilà ce que disent les pères en haut de la page 38. Donc, il y a plusieurs symboles, si vous voulez, dans ces deux disciples. Les disciples d'Emmaüs représentent aussi les deux peuples, le peuple des gentils et le peuple juif, à qui la foi devait être annoncée. C'est-à-dire, tout le monde peut utiliser la grâce de la résurrection. Pas simplement les juifs qui vont se convertir, mais également les gentils. Et cette apparition aux deux disciples d'Emmaüs nous apprend qu'ici-bas, la foi travaille pendant la durée de la vie active, tandis que la vie contemplative règne dans la jouissance calme et assurée de la claire vision. Donc c'est aussi le symbole des deux façons de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans une vie plus contemplative ou dans une vie plus active. Cependant, saint Thomas d'Aquin fait remarquer dans sa somme théologique que la vie la plus parfaite, c'est un mélange de vie active et de vie contemplative. Comme on a un corps et une âme, donc la vie contemplative est à l'âme ce que la vie active sera au corps. Donc il faut un peu des deux. C'est pour ça que l'Église a toujours été un peu prudente avec des personnes qui voulaient être des purs contemplatifs sans avoir aucune vie active. On voit très bien dans les Pères du désert, les anachorètes qui pourtant avaient une vie contemplative très très forte, ils étaient tenus aussi d'avoir une vie active, de faire du travail manuel. La vie active permet aussi le travail manuel. Le travail manuel est nécessaire à l'équilibre de l'âme et du corps. Il ne faut pas simplement avoir une vie purement contemplative, il faut équilibrer cette vie contemplative par une vie active. Donc sur la terre, ici-bas, nous ne voyons que l'image des choses, comme dans un miroir, saint Paul. Dans l'autre vie, nous verrons la vérité face à face. C'est pourquoi le Sauveur apparaît sous une autre figure aux disciples qui sont en marche et dans les travaux de la vie présente. Donc à tel point que lorsque notre Seigneur apparaît aux deux disciples d'Emmaüs, les disciples ne le reconnaissent pas, pourtant ils le connaissaient, mais ils ne le reconnaissent pas. De la même façon, Sainte Marie-Madeleine, lorsqu'elle va voir notre Seigneur Jésus-Christ au tombeau, au début, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va lui apparaître, tout à fait au début, après la résurrection, elle ne reconnaît pas son maître, elle va penser qu'il était le jardinier. C'est des détails qui sont donnés par d'autres évangiles. Donc les autres disciples ne croient point à leur témoignage de la Sainte Femme, parce qu'ainsi que Moïse, ils ont vu ce qui n'était pas capable de les satisfaire. Aussi, Moïse fait-il cette demande à Dieu: montrez-vous vous-même à moi. Il oubliait ce corps mortel dont il était revêtu, il demandait à jouir dans cette vie de ce que nous espérons pour la vie future. C'est pour ça que lorsque Sainte Marie-Madeleine finalement reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pitié d'elle et qui l'appelle par son prénom, Maria. Et à ce moment-là, elle reçoit de la grâce de la conversion. Son cœur s'ouvre, elle retrouve la foi, elle réalise que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite aux pieds de notre Seigneur pour embrasser les pieds de notre Seigneur. Et notre Seigneur est obligé de mettre ses deux doigts sur le front de Sainte Marie-Madeleine en lui disant: ne me touche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire: vous ne pouvez pas encore me posséder complètement, vous ne pourrez me posséder complètement que lorsque vous serez au ciel. Vous voyez? Tant que nous sommes revêtus de ce corps mortel, nous ne pouvons pas posséder notre Seigneur Jésus-Christ complètement, c'est impossible. Donc il faut soit être séparé de ce corps mortel, c'est le cas des âmes actuellement au ciel, soit avoir un corps qui est devenu, qui a pris les privilèges des corps glorieux. Après la résurrection, nous aurons au ciel un corps glorieux. La Très Sainte Vierge Marie, par exemple, qui est au ciel avec son corps, puisque elle a eu le miracle de l'Assomption à la Très Sainte Vierge Marie, donc elle est avec son corps, le corps de la Très Sainte Vierge Marie au ciel est un corps glorieux. Avançons avec les versets 14 à 16 de Saint Marc, du chapitre 16. Enfin, notre Seigneur apparut aux 11, tandis qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui avaient vu qu'il était ressuscité. Et il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront les serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Donc, ici, vous avez un verset très important, le verset 16. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ceci condamne, évidemment, par avance, toutes les formes de faux œcuménisme d'aujourd'hui. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Celui qui croit, celui qui ne croit pas. Donc, ceux qui sont dans une fausse église ne peuvent pas croire au véritable Dieu, puisqu'il n'y a pas de valeur de salut dans une fausse église. Donc il faut croire et être baptisé. Si je crois, je suis baptisé et j'ai les œuvres de la foi en moi, la pratique du baptême, c'est-à-dire la vertu de charité en moi, je peux être sauvé. Mais si je ne crois pas, je ne peux pas être baptisé. Et si je ne suis pas baptisé, je ne peux pas être sauvé parce que le baptême est la porte qui permet l'arrivée de la charité dans l'âme. Donc celui qui ne croit pas ne peut pas être sauvé, c'est impossible. Quelqu'un qui continue de croire en un faux Dieu ne peut pas être sauvé, c'est absolument impossible. Alors voyons les témoignages des pères sur ces derniers versets de l'évangile de Saint Marc. Donc notre Seigneur leur reproche leur incrédulité afin qu'elle fasse place à la foi. Il leur reproche la dureté de leur cœur de pierre afin qu'il le change en un cœur de chair rempli de charité. C'est-à-dire la charité va changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Donc ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est par son arrivée. Il va remettre la charité, la foi et la charité dans le cœur de ses disciples, disciples qui avaient complètement perdu justement cette foi en la résurrection, alors pourtant notre Seigneur l'avait annoncé plusieurs fois. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, va pardonner à ses disciples et va leur rendre, par la vertu de charité, va leur rendre la foi, parce que la charité ne peut pas exister dans un cœur sans la foi. Allez dans le monde entier prêcher l'évangile à toutes les créatures. Cette dénomination générale de créature, il faut entendre l'homme. L'homme, en effet, a quelques points de contact avec chaque créature. Il a de commun l'être avec les pierres, la vie végétative avec les arbres, les sentiments avec les animaux, l'intelligence avec les anges. C'est pour ça qu'on dit que les arbres, par exemple, les fleurs, ont une âme végétative. Il y a une vie. Un arbre, ça vit. Les animaux, un chat, un chien, par exemple, il a à la fois une âme végétative parce qu'il vit, mais aussi une âme sensitive parce qu'il sent. Tiré sur la queue d'un chat, il va souffrir. Par contre, l'homme, il a à la fois une âme qui est végétative, parce qu'il vit, une âme qui est sensitive, parce qu'il sent, et une âme raisonnable, parce qu'il a une intelligence. Donc un animal n'a pas d'intelligence. Il ne faut pas dire, en parlant des chats ou des chiens, mon chien est particulièrement intelligent. Non, votre chien peut avoir un instinct plus ou moins développé, mais il n'a aucune intelligence, parce qu'il n'a pas d'âme raisonnable. On ne peut pas avoir d'intelligence sans âme raisonnable. L'évangile sera donc prêché à toute créature, parce qu'il sera annoncé à l'homme seul, parce qu'il est enseigné à celui qui... pour qui tout a été fait sur la terre et qui a quelques rapports d'analogie avec toutes les créatures. Et donc pour montrer ce que provoque la charité dans une âme, l'évangéliste va donner ces exemples de tous ces miracles qui vont accompagner la prédication de l'évangile par les apôtres dans le monde entier. Il les rassure, notre Seigneur va les rassurer en disant en mon nom, vous chasserez les démons, vous parlerez de langues nouvelles. Vous prendrez les serpents, ils ne vous feront aucun mal. On vous cherchera à vous empoisonner, mais le venin ne fera aucune action dans votre âme. etc. Vous imposerez les mains sur les malades, vous serez, et ils seront guéris. Donc, ainsi, disent les pères, les fidèles qui renoncent au langage du siècle pour consacrer leurs paroles à la prédication des saints mystères parlent de nouvelles langues. On voit très bien chez les apôtres ces miracles extraordinaires où ils parlaient. On voit très bien au moment de la Pentecôte, lorsque Saint-Pierre va donner son premier sermon, il y avait devant la maison, la chambre haute à Jérusalem, il y avait des gens de toutes les nations qui étaient sous le soleil, et chacun va comprendre le serment de Saint-Pierre dans sa propre langue. On le voit aussi chez des tas d'autres saints, comme par exemple Saint-François-Xavier, Saint-Vincent Ferrier aussi, qui avait reçu du bon Dieu ces dons spéciaux. Ils parlaient et les gens comprenaient dans leur langue, même ceux qui ne comprenaient pas, en fait, strictement parlant, qui n'auraient pas dû comprendre la langue parlée par le prédicateur, ils comprenaient de façon miraculeuse, parce que Dieu, justement, donnait par cette compréhension miraculeuse la preuve que cette personne qui parlait, l'orateur sacré, était envoyé par lui, était envoyé par Dieu. Même eu des cas de gens qui entendaient à des distances considérables. C'est le cas, par exemple, avec Saint-François, avec Saint-Vincent Ferrier. Ils prennent les serpents avec la main lorsque, par leur sage exhortation, ils arrachent le mal du cœur de leur frère. Donc le serpent qui cherche à mettre du venin dans le sang de la personne qu'il mord représente le démon qui cherche à mettre le mal à l'intérieur de l'âme. Eh bien, de même que les serpents ne pourront pas faire de mal par leur piqûre aux apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont le pouvoir d'arracher le mal moral qui est représenté par le serpent, le venin du serpent. Donc ceux qui résistent aux pernicieux conseils, qui voudraient les entraîner dans ces actions criminelles, boivent un breuvage empoisonné sans en recevoir de mal. Donc Dieu, notre Seigneur, avertit les apôtres qu'il va leur donner des grâces particulières pour qu'ils ne puissent pas être dominés par le démon. Ils seront plus forts que le démon. Passons à la page 39. Donc ici c'est une allusion au verset 18. Ils prendront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Ceux qui, toutes les fois qu'ils voient leur prochain chanceler dans la voie du bien, le fortifient par l'exemple de la vertu, imposent les mains sur les malades et les guérissent. Donc ce n'est pas simplement une guérison des corps que vont pouvoir provoquer les apôtres, mais aussi une guérison de l'âme. Or ces miracles sont d'autant plus grands qu'ils appartiennent au monde spirituel, c'est-à-dire qu'ils ont pour sujet des âmes et qu'ils ont pour objet de rendre la vie non au corps mais aux âmes. Donc celui qui ramène une âme, qui sort une âme du péché, a fait bien plus de bien pour le royaume de Dieu que quelqu'un qui guérit un corps. Donc ici, il y a une autre allusion par les pères de l'Église. Donc ce texte, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Les calvinistes, les protestants, utilisent ces paroles pour prétendre que le baptême n'est pas nécessaire au salut et que la foi suffit. Or, il faut la foi et les œuvres de la foi. Mais le Christ précise, celui qui ne croira pas sera condamné. Sous le terme qui croira, c'est la foi donc qui est désignée, elle inclut le baptême, qui est le sacrement de la foi, tout ce qui en découle. Donc ce n'est pas simplement le baptême qui est demandé, la foi donc qui est donnée par le baptême. N'oubliez pas qu'avec avec le baptême, on reçoit d'abord la charité. Donc la grâce spécifique qui est donnée par le sacrement de baptême, donc on voit ça au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé. Le baptême, qu'est-ce que donne le baptême? Les gens pensent beaucoup que la première conséquence du baptême, c'est la destruction du péché originel. C'est faux. La première conséquence du baptême, c'est l'explosion de la charité dans une âme. L'âme qui appartenait au démon, l'âme d'un enfant qui est baptisé, appartient au démon strictement parlant avant le baptême. Au moment du baptême, au moment où l'eau coule sur le front du bébé et que le prêtre prononce les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit », à cet instant précis, la charité va envahir l'âme. Et comme la charité ne peut pas exister sans la foi et l'espérance, donc avec la charité arrive en même temps la foi et l'espérance. Et comme la charité est incompatible avec le péché, le péché va sauter. Or, le seul péché qui est dans l'âme d'un enfant, d'un nouveau-né, c'est le péché originel. Donc le péché originel va disparaître. Il est vrai de dire que le baptême enlève le péché originel, bien sûr, mais c'est une conséquence de l'arrivée de la charité dans l'âme. Donc la première chose qui rentre dans l'âme, la première conséquence du baptême, c'est l'arrivée de la charité dans une âme. Dernier verset de Saint Marc, versets 19 et 20. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé dans le ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Les apôtres étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur coopérant avec eux, confirmant leurs paroles par les miracles dont elle était accompagnée. Donc ici, voilà les derniers commentaires des pères de l'Église sur ces passages. Nous savons par l'Ancien Testament qu'Élie a été enlevé au ciel. C'est l'allusion qui est faite au verset 19. Le Seigneur fut élevé dans le ciel. Donc, pour strictement parlant, Élie n'est pas allé au ciel. Attention, il n'est pas allé au ciel. C'est un peu un mystère pour Élie et Hénoc. On ne sait pas exactement où ils sont. Ils reviendront à la fin des temps pour lutter contre l'Antéchrist, mais ils ne sont pas actuellement au ciel, dans le sens du ciel du paradis. Ils sont dans un lieu qui est un lieu mystérieux dans lequel ils attendent la fin du monde. Alors ici, les pères font remarquer que Élie fut enlevé dans le ciel aérien, une région mystérieuse, une région secrète du monde, pour y vivre dans une paix profonde de l'âme et du corps, jusqu'à ce qu'il revienne à la fin du monde et paie son tribut à la mort. Donc il y aura un retour d'Élie et d'Hénoc à la fin du monde pour lutter contre l'Antéchrist. Et ceci sera la fin de la terre ici-bas. Donc remarquons, disent les pères, qu'Élie est emporté dans un char de feu, pour démontrer clairement qu'étant qu'homme, il avait besoin d'un secours étranger. Au contraire, notre Seigneur n'a pas eu besoin de l'aide de quiconque pour monter au ciel, ni d'un char, ni des anges pour monter au ciel. Pourquoi ? Parce qu'il est créateur de toutes choses, et donc il s'élevait par sa propre vertu au-dessus de tous les éléments. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts par sa propre force. Il monte au ciel par sa propre force. Donc celui qui juge s'assoit, et il est assis à la droite de Dieu. Le trône de Dieu représente le trône de la sagesse, le trône du jugement. Donc celui qui juge s'assoit, celui qui combat ou porte secours se tient debout. Donc saint Étienne, au milieu des combats qu'il soutenait, voit Jésus cri debout qu'il avait pour soutien. Mais saint Marc nous le montre assis à la droite de Dieu, parce qu'après la gloire de son ascension, il paraît dans cette attitude comme juge des hommes à la fin du monde. Donc le symbole du juge, c'est le siège de la sagesse, d'où le juge, sur lequel le juge est assis pour juger les vivants et les morts. Et pour bien montrer sa supériorité, il est assis devant les hommes qui sont à genoux ou debout devant lui. La droite, c'est aussi la puissance. La puissance, ça représente la puissance de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. C'est la puissance qu'il a reçue de Dieu comme homme pour venir juger les hommes après qu'il était venu pour être jugé par eux. Donc Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ est soumis au jugement des hommes qui le condamnent à mort, mais il va rattraper ce jugement inique des hommes en les jugeant lui-même. Jésus-Christ donc habite à la droite de Dieu le Père, il est heureux, il habite au sein de la béatitude qui est appelée la droite du Père. La droite du Père ici représente le paradis tout simplement. Là on ne connaît que la droite parce qu'il n'y a aucune souffrance. Je vous ai déjà expliqué que la droite représente le paradis alors que la gauche représente le monde d'ici-bas. C'est pour ça qu'à l'autel, lorsque le prêtre célèbre la messe, il va dire l'évangile à gauche, parce que c'est la prédication au monde. L'évangile est prêché au monde pour convertir les mondes, le monde et ramener le monde à Dieu. Donc il n'y a aucune souffrance à droite, parce que la droite représente le paradis. Ici un texte de saint Bernard, au sens mystique. La première œuvre de la foi, faite par amour, est la componction du cœur, par laquelle, sans aucun doute, les démons sont chassés dès que les péchés sont déracinés de notre cœur. Le démon, là où est le démon, il y a le péché. Dès que le démon s'en va, dès que le péché s'en va, le démon s'en va. Puisque le démon et le péché sont attachés. S'il n'y a pas de démon, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de démon. Ceux qui croient au Christ parlent de nouvelles langues, ne parlant plus le vieux langage de nos premiers parents, qui cherchaient des excuses pour leurs péchés. Donc, aux pécheurs correspond une certaine langue. Et on le voit très bien aujourd'hui. les pécheurs, les gens qui vivent dans l'esprit du monde, ils ont une certaine langue. C'est la langue de la révolution. De quoi parlent les pécheurs? De quoi parlent ceux qui vivent dans le monde avec l'esprit du monde? On sent très bien, leur langue est imprégnée de ces trois notions totalement fausses de liberté, d'égalité, de fraternité. Au contraire, un catholique se doit non pas de parler de liberté, d'égalité, de fraternité, mais doit parler de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. C'est soit les trois concupiscences, la chair, les yeux, le monde, représentés par ces trois paroles, liberté, égalité, fraternité, soit au contraire les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Donc par la ponction du cœur et la confession de bouche, les anciens péchés disparaissent, ça représente le sacrement de pénitence, pour que les hommes ne reviennent pas en arrière et que leur nouvel état devienne pire que l'ancien. Ils doivent, bien sûr, pour cela, tuer les serpents, c'est-à-dire les suggestions poisonneuses du démon. Rappelez-vous le verset 18, « Ils prendront les serpents, il ne leur sera fait aucun mal. » Donc le démon qui est représenté par le serpent, n'oubliez pas que c'est un serpent. Donc le démon apparu à Ève sous la forme d'un serpent pour bien montrer justement que la destruction du péché entraîne la destruction du venin que le serpent met à l'intérieur de l'âme par le péché. Et ici, nous terminons par deux magnifiques citations des pères. Au royaume du bonheur éternel, c'est Saint Augustin qui parle. Au royaume du bonheur éternel où la jeunesse ne se flétrit jamais, où la beauté demeure toujours, où l'amour ne se refroidit jamais, où la santé ne connaît pas la maladie, où la joie ne diminue jamais, où la vie est sans fin. Le paradis, c'est ça. C'est l'absence totale de crainte de perdre Dieu. Vous voyez ? C'est ça qui est terrible chez nous ici-bas. Tant qu'on est ici-bas, on peut être en état de grâce, on peut vivre en état de grâce, on peut se battre contre les tentations du monde, mais on a toujours cette crainte au fond de nous-mêmes de perdre Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, il n'y a pas un seul péché qu'a commis le voisin que je ne suis pas capable de commettre dans ma propre stupidité, par ma propre stupidité. Donc il y a une crainte constante ici-bas. L'homme catholique qui vit en état de grâce ici-bas doit avoir en lui cette crainte du Seigneur. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est un don du Saint-Esprit qui nous fait craindre de perdre Dieu, d'offenser Dieu par le péché. Malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Une fois qu'on est au ciel, on n'a plus cette crainte de Dieu. On n'a plus cette crainte de perdre Dieu. Et c'est donc le bonheur éternel. C'est une belle prière. J'ai oublié de noter. Je ne me rappelle plus où j'ai trouvé cette prière. Mais elle est magnifique. Ô Christ, faites que nos discours que nous prononçons avec autorité soient toujours confirmés par nos œuvres et par nos actes, afin qu'à l'aide de votre coopération toute puissante, nous devenions parfaits dans toutes nos paroles comme dans toutes nos actions. Car c'est à vous seul qu'il faut renvoyer la gloire de nos paroles comme de nos œuvres. Donc que nos discours que nous prononçons, en tant que catholiques, en tant qu'apôtres, si vous voulez, soient confirmés par les œuvres et par nos actes. Quelles sont les œuvres et ces actes? C'est la vertu de charité. Donc, on ne convertit pas les gens simplement par le discours, par une façon de parler, on convertit les gens par la charité qui luit en nous. Il faut que les gens qui nous voient puissent voir Dieu derrière nous. Rappelez-vous de Saint Curé d'Ars, ce protestant qui était allé voir le Saint Curé d'Ars et qui a dit à ses amis, je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu derrière l'homme. Donc on convertit les gens, non pas avec des discours, même prononcés avec autorité, on convertit les hommes par ces discours faits avec la vertu de charité qui est derrière le discours. Voilà, donc nous avons... Dieu aidant, terminer donc les deux premiers évangiles, l'évangile de Saint Matthieu, l'évangile de Saint Marc. Donc je conseille beaucoup à ceux qui ont un peu de temps de relisez maintenant que nous avons terminé les commentaires, même imparfaits, de ces évangiles que je vous ai donnés, à partir des Pères de l'Église. Je vous conseille beaucoup de relire ce polycopier, relisez les polycopiers à partir des Pères sur Saint Marc. Donc la prochaine fois, Dieu aidant, Nous commencerons le troisième évangile, c'est l'évangile de Saint Luc. Voilà, nous avons terminé par une prière. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.